Voilà, maintenant, je vous encourage à ouvrir vos Bibles. Et ce matin, nous allons lire ensemble le psaume 19. Psaume 19. C'est donc le texte que nous avons lu ensemble lors de la dernière réunion de prière, il y a une dizaine de jours. Sauf que cette fois-là, on s'est juste concentré sur l'aspect de la grandeur de Dieu et donc cette foi que le psalmiste mettait dans le Dieu de la création. Cette fois-ci, on va regarder tous les éléments dans ce psaume. Donc, psaume 19, à partir du premier verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Alors, un des messages, sinon le message fondamental de la Bible, c'est que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, verset 16, nous lisons « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Dieu est amour. Et ce Dieu d'amour a toujours souhaité créer une relation d'amour avec ses créateurs, en particulier avec sa créature, en particulier avec l'être humain. Et donc, dans l'objectif de permettre à l'être humain de vivre dans une relation d'amour avec lui, nous avons un Dieu qui a voulu se faire connaître. Il désire être connu de nous, et donc il a choisi de se faire connaître. C'est un des aspects fondamentaux de la création, que Dieu a voulu avoir une relation avec nous, a voulu être connu de nous. Et donc, c'est fait connaître. Déjà, dans Genèse chapitre 3, on a cette image de la relation qui existait déjà entre Adam et Ève et l'Éternel dans le jardin d'Éden, où donc le texte semble suggérer une habitude qu'ils avaient à l'époque. Verset 8 de Genèse 3, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Ce que Dieu désire, c'est effectivement être Emmanuel, être Dieu avec nous, avoir cette relation entre nous et lui, où il est présent dans notre vie et où nous partageons la vie ensemble, où nous avons cette habitude de nous fréquenter, où nous le connaissons et sommes en relation avec lui. Et la Bible nous montre que même lorsque le péché est intervenu, ruiner finalement cette relation qui existait entre Dieu et les êtres humains, parce que ben, la Bible nous dit clairement que tel est le cas. Romains 3, 23 par exemple nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et généralement, lorsque la Bible parle de la gloire de Dieu, on parle de sa présence, puisque la gloire, c'est tout ce qui entoure la personne, la présence de Dieu, c'est tout ce qui est caractéristique de la présence de Dieu. Donc finalement, Paul, en disant « nous sommes privés de la gloire de Dieu », veut dire en somme « nous sommes privés de sa présence ». Le péché a créé une rupture empêchant cette relation où nous pouvions accomplir l'objectif de notre vie de connaître Dieu et de vivre en relation avec lui. Ésaïe 59, verset 2 nous dit également, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché, nous dit la Bible, crée une séparation, une brèche entre Dieu et nous et empêche cette relation. Mais même lorsque le péché est intervenu pour ruiner cette relation que Dieu désirait, la Bible nous révèle que Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour rétablir cette relation, pour nous permettre à nouveau à le connaître jusqu'au point de porter lui-même notre péché dans son corps, lorsqu'il est mort sur la croix. Lui, il a pris notre péché pour enlever ce qui créait cette séparation entre nous et Dieu, pour que nous puissions à nouveau le connaître. Alors nous savons que la Bible nous dit que dans le plan de salut, tout est par grâce. Éphésiens 2 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est point par les œuvres, tout est l'œuvre de la grâce de Dieu, mais effectivement, tout et par grâce. Si nous, nous avons l'occasion de connaître Dieu, c'est aussi par grâce. C'est parce que Dieu a pris l'initiative dès le début de se faire connaître à nous. Lui, il a pris cette initiative. C'est ça la grâce. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui fait le nécessaire. Dieu a toujours pris l'initiative pour que nous puissions le connaître. Dieu ne nous a pas laissés seuls pour essayer de nous débrouiller, pour essayer de le trouver quelque part. Il ne nous a pas laissés face à nous-mêmes ou face juste au monde pour essayer de nous débrouiller, de tâtonner jusqu'à ce qu'on trouve Dieu, parce que Dieu savait qu'en tant que pécheurs, nous serions incapables de le trouver. Si on cherche en nous-mêmes, on ne le trouvera pas. À part si lui, il nous a fait la grâce de venir habiter en nous. Si on cherche en quelqu'un d'autre, si on cherche dans le monde naturel autour de nous, on ne le trouvera pas en tant qu'être pécheur. Il a fallu que Dieu nous fasse la grâce de se faire connaître à nous. Et c'est ce qu'il a fait parce que son désir, c'est de se faire connaître et d'entrer dans cette relation avec nous. Donc, finalement, on n'a pas besoin de chercher Dieu, parce que Dieu, dans sa grâce, a pris l'initiative de se faire connaître, de se révéler à nous, de nous montrer qui il est, de nous indiquer le chemin vers lui, et il s'est révélé à nous particulièrement à travers sa création, à travers sa parole, la Bible, et à travers Jésus-Christ. Il pouvait dire en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi qui le révèle. Il pouvait dire, si vous m'avez vu, moi, vous avez vu le Père. Si vous me connaissez, moi, vous connaissez le Père qui m'a envoyé. Donc, dans ce psaume, le psalmiste souligne deux aspects particuliers de la révélation de Dieu. D'abord, Dieu qui s'est révélé dans sa création. Genèse, chapitre 1, verset 1er, la toute première déclaration de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il nous dit que tout ce qui existe a été créé par lui. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1, c'est donc évidemment le tout début de Genèse, premier verset de Genèse, qui est le premier livre de la ce qu'on appelle la Pentateuque, donc les cinq livres de Moïse. Et ces cinq livres étaient écrits finalement par Moïse lorsque le peuple d'Israël était à la frontière du pays promis. Si on veut comprendre ce qui est dit dans ces livres, on a besoin de se rappeler que tout a été écrit pour le peuple au moment où le peuple d'Israël allait entrer dans le pays promis. Ce n'était pas écrit au fur et à mesure des événements, c'était écrit à un moment précis, dans un objectif précis. Moïse était à la tête de ce peuple qui, sur l'instruction de Dieu, allait maintenant devoir partir à la conquête du pays promis, à la conquête de Canaan pour s'installer dans ce pays. Et donc Moïse leur a fourni cette révélation de Dieu dans les cinq premiers livres, où donc Moïse allait pouvoir dire au peuple d'Israël, bah, ce Dieu qui s'est révélé à nous, ce Dieu qui nous a laissé le commandement maintenant d'aller conquérir ce territoire, bah, il est le Dieu qui s'est révélé il y a une génération en Égypte, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui est intervenu pour nous, mais il est aussi le Dieu qui est intervenu, qui a parlé aux patriarches, qui a donné des promesses il y a des siècles aux patriarches. Et ce Dieu qui nous envoie dans le pays promis, qui nous a donné sa loi et nous dit que nous devons après vivre selon cette loi lorsque nous sommes sur ce territoire. Ce Dieu qui a parlé aux patriarches, finalement c'est le Dieu qui a tout créé. C'est d'ailleurs de cela que vient son autorité de pouvoir nous imposer sa loi, de pouvoir nous envoyer à la conquête de ce pays, parce que finalement, tout est à lui. Tout lui appartient, parce qu'il est le Dieu qui, au commencement, a tout créé. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Donc, si lui nous envoie, c'est avec son autorité, c'est aussi avec sa puissance, la puissance de celui qui, à partir de juste un mot, a pu créer l'univers entier. Alors, c'est sûr que de nos jours, Genèse chapitre 1 n'est plus très populaire dans le monde dans lequel nous vivons. N'est plus très accepté ni acceptable. Dire qu'au commencement, Dieu a tout créé. Alors, il est sûr que Moïse n'a pas cherché à répondre à toutes les questions scientifiques qu'on pourrait poser en 2024, parce que ce n'était pas son objectif. Lui, son objectif, c'était de dire le Dieu qui nous envoie conquérir le pays promis et qui impose sa loi sur nous, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout parce qu'il a tout créé. Il a créé les cieux et la terre. Donc, il ne cherche pas à répondre à toutes nos questions scientifiques, mais la Bible nous dit que toute explication de notre monde qui n'est pas fondé sur la base que le Dieu d'Israël, Yahweh, s'est révélé à travers la création de tout ce qui existe, est un mensonge qui trouve ses origines dans le péché humain. C'est le fruit de l'orgueil humain, et c'est un mensonge, puisqu'il dit en Romains chapitre 1 que toute autre explication retient la vérité captive. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La Bible nous dit que toute la création est là pour nous diriger vers Dieu, puisque c'est Dieu qui est à l'origine de toute chose. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus sur la création qu'à l'époque où l'apôtre Paul a écrit Romains, où David a écrit ce psaume. On est encore, même dans les années 2020, de découvrir des choses que jusque-là nous ignorions au sujet de la création, au sujet de l'univers dans lequel nous vivons. Mais finalement, pour les auteurs bibliques, il n'y aurait rien de surprenant de découvrir que plus on cherche, plus on découvre la grandeur de la création, la grandeur de l'univers, et qu'on découvre des choses qu'on ignorait jusqu'alors. Parce que, justement, David pouvait écrire déjà à son époque, dans le verset 2, « L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains et raconte la gloire de Dieu. » Donc, rien de surprenant. Si Dieu est infiniment grand, comme on le chante parfois, rien de surprenant que sa création soit nettement plus grande que ce qu'on pouvait imaginer. Mais la Bible nous dit que Dieu a utilisé la grandeur de sa création pour se révéler à nous et pour nous faire comprendre qu'au-dessus de nous, il existe bel et bien un être qui est au-delà, largement au-delà de notre compréhension et qui du coup mérite notre adoration en tant que notre créateur, en tant que celui qui est au-dessus de toute autre chose. Alors en même temps, il est important, lorsque on parle de la révélation de Dieu à travers la création, de ne pas non plus aller au-delà de ce que dit la Bible, ou d'oublier des choses que nous dit la Bible, puisque parfois, on a tendance que de regarder le côté positive de la grandeur de la création et dire chaque moindre détail de la création nous montre la nature de Dieu, sauf que la Bible nous dit en même temps que nous vivons dans un monde déchu où les effets de l'introduction du péché existent, où donc la maladie et la mort existent, où la destruction des choses existe, où le monde n'est plus la perfection que Dieu voyait lorsque lui regardait à sa création et il disait que tout était bon. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est déchu jusqu'au jour où Jésus reviendra rétablir toutes choses. Mais même ce monde déchu dans lequel nous vivons, qui a des côtés négatifs à cause de la chute, reste tout de même très impressionnant. Lorsqu'on regarde l'immensité de l'univers et tout ce qu'on est en train de découvrir, c'est quand même impressionnant. Et la Bible nous dit que c'est une révélation de la grandeur de Dieu. Parce que ben, si on voit toute la grandeur de notre univers, alors cette semaine encore, il était question de l'exploration spatiale, avec, je crois, c'était les Japonais qui ont malheureusement pris le nez dans la Lune, avec leur objet qu'ils ont envoyé sur la Lune. Mais avec tous les télescopes et tous les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on découvre l'immensité de notre univers. Mais la Bible nous dit, ben, Dieu, tout simplement, par un mot, a fait exister toutes ces choses. Donc, si notre univers est immense, combien grand doit être le Dieu qui, par un mot, a pu créer toutes ces choses? Et donc, l'objectif de cette création, c'est de tourner notre regard vers lui pour l'adorer. Et donc, dans le psaume 19, le psalmiste présente l'image de cette création qui nous parle de la grandeur de Dieu. Et il dit, il nous parle à tous, à toutes ses créatures, à travers cela. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Chaque jour nous montre donc la grandeur de notre Dieu en nous faisant voir sa création. L'avantage de la création, nous dit le psalmiste, c'est que, quelle que soit notre langue, on n'a aucun souci. Alors, qui trouve la langue française d'un compliqué pas possible? Mais la Bible dit, peu importe. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement le français pour comprendre le message que Dieu vous a adressé. Puisque ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Donc, peu importe où vous habitez, peu importe le niveau de votre éducation, peu importe si vous comprenez le message qui vous est dit ou pas, il dit que vous n'avez même pas besoin de comprendre des langages. Parce que vous voyez ce monde autour de vous, ce monde parle de la grandeur de Dieu, leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Ou d'ailleurs, dit le psalmiste, il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Même le soleil, avec toute sa puissance, n'est que le jouet que Dieu lance sur son chemin et que lui, il maîtrise et contrôle. Dieu nous parle à travers l'immensité de sa création. Donc, c'est pour cela que dans Romains 1 et Romains 10, Paul peut dire que du coup, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire qu'il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Personne qui puisse dire, ah ben c'est pas juste de me condamner, parce que comment j'étais censé savoir? Il dit, tout le monde a eu accès à cette révélation et vous ne pouvez pas dire que ben, c'était impossible à comprendre. Parce qu'il a dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, c'est aller de par le monde. Romains 10, verset 16, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Même Esaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, Et là, il va citer le psaume. Leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Pour que, comme il dit dans le chapitre 1, chacun soit inexcusable. Mais en même temps, Romains chapitre 1 se joint à Romains chapitre 10 pour nous dire que dans l'état actuel des choses, dans l'état où le péché nous a plongés, malheureusement, la création seule ne suffira plus, puisque dans notre orgueil, dans notre péché, nous sommes devenus comme aveugles. La création est là pour nous montrer la grandeur de Dieu, mais le péché qui a pris possession de nous nous empêche de voir ce qui, pourtant, devrait être évident pour tous. Et donc, comme dit Romains 10, du coup, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il nous a fallu une révélation de plus pour connaître Dieu, puisque le péché nous a rendus insensibles à cette révélation immense de la création. Et donc, puisque Dieu avait cet objectif d'être connu pour établir cette relation, dans sa grâce, dans son amour, Dieu a donné une révélation supplémentaire à la révélation de la création pour que même si le péché nous empêchait de le voir à travers sa création, nous puissions entendre sa voix nous parler à travers sa parole, à travers la Bible. Hébreux chapitre 1, verset 1, parle de ce Dieu qui a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à travers les prophètes. Et l'apôtre Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puisque le péché nous empêche de nous rendre compte de ce que cette révélation de la création est censée nous démontrer, Dieu a inspiré les prophètes, il a inspiré les apôtres pour dire voilà ce que tout cela veut dire. Voilà d'où tout cela vient. Au commencement, j'ai créé les cieux et la terre pour vous révéler ma grandeur. Et en plus, j'ai continué à me révéler, j'ai continué à faire tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez me connaître. Et donc, c'est cette révélation supplémentaire qui va être le thème de ce psaume. C'est pour ça que finalement, au milieu du psaume, il semblerait sauter d'une chose à l'autre, parce que jusque-là, il a parlé de la création, puis tout d'un coup, verset 8, il commence à parler de la loi de l'Éternel. Quel lien avec la création ? Simplement, ce sont deux révélations du même Dieu dans l'objectif qu'on puisse le connaître. Donc, à partir du verset 8, le psalmiste, dans sa forme poétique, emploie plusieurs références, plusieurs manières de décrire la parole de Dieu, la révélation de Dieu par la parole donnée par les prophètes, pour nous montrer la grandeur aussi de cette révélation. Il parle de la loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. Tous les moyens de décrire cette révélation que Dieu a donnée à travers les prophètes. Et puis, il parle de la grandeur aussi de cette révélation. Comme il a parlé de la grandeur de la révélation dans la création, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, est véritable, les ordonnances sont droites, ses commandements sont purs, ses jugements sont vrais, plus précieux que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel qui coule des rayons, source d'instruction. Et pour nous encourager à accepter cette révélation-là, à intégrer cette révélation et l'appliquer dans notre vie, il dit « Pour qui les observe, verset 12, la récompense est grande. » Et cette récompense, il va le dévoiler à la fin du psaume. C'est justement l'objectif final de Dieu de toute sa révélation, c'est cette relation. Le fait de le connaître, d'apprendre à le connaître pour vivre en relation avec lui, quand il parle donc de cette communion, reçoit favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Le fait de se trouver en relation avec Dieu, où nous discutons, où Dieu nous connaît et nous le connaissons et nous parlons avec lui. Mais ce qui est toujours impressionnant quand on lit de tels passages dans l'Ancien Testament, comme aussi dans le psaume 119, c'est de se dire que lorsque David a écrit ce psaume, lorsqu'il a écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, le témoignage de l'Éternel est véritable, les ordonnances de l'Éternel sont droites, les commandements de l'Éternel sont purs, la crainte de l'Éternel est pure et ses jugements sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Tout ce que lui il avait pour faire ce constat, c'est justement la Pentateuque dont on a parlé tout à l'heure. Les cinq premiers livres. David, il arrive dans le livre de 1 Samuel. Donc tout ce qu'ils avaient jusqu'à là, c'était les écrits de Moïse, les cinq premiers livres. Est-ce que, lorsque vous faites votre lecture, si vous êtes dans la Pentateuque, vous diriez, en lisant la généalogie de Noé, par exemple, oh, qu'est-ce que ce texte est doux, plus doux que le miel, qui coule du rayon. Ou lorsque vous lisez le livre des Nombres, où donc vous avez toutes les générations d'Israël avec des noms complètement imprononçables, ou lorsque vous êtes en train de lire les textes de Lévitique, de la loi sur... dans toutes les circonstances où il faut lapider les gens qui avaient fait ceci ou cela, ou lorsque vous lisez toutes les règles concernant quoi faire si une mouche meurt dans un dépôt dans votre cuisine, David pouvait lire ces textes et dire « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Il pouvait le dire, puisque ces textes sont une révélation du Dieu qui a inspiré les prophètes à écrire ces textes. Ce n'étaient pas les textes en eux-mêmes qu'il louait, qu'il trouvait tellement merveilleux, mais le fait que ces textes le conduisaient au Dieu qui les avait inspirés. Et c'est lui qui restaure l'âme. C'est lui qui permet de préserver son serviteur des orgueilleux, qui l'aide à rester intègre, innocent de grands péchés, qui le permet de venir à Dieu avec les paroles de sa bouche, les sentiments de son cœur. Ce qu'il cherchait, c'était le Dieu qui se faisait connaître à travers ses textes. Donc si David pouvait dire, ben, qu'est-ce que je suis béni d'avoir accès à ces généalogies de toutes les générations du peuple d'Israël, et à ces lois qui me disent quoi faire lorsqu'une mouche meurt dans ma cuisine, à combien plus forte raison nous pouvons nous considérer bénis d'avoir accès non plus uniquement au texte de la Pentateuque, mais à toute la Bible, à toute cette révélation de Dieu à travers tout ce temps, y compris surtout les textes du Nouveau Testament qui nous conduisent à la révélation ultime de notre Dieu, de sa grandeur, de son amour dans la personne de Jésus-Christ. Justement, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, au point que David pouvait dire « Ces paroles sont plus précieuses que l'or, plus douces que le miel. » Après tout cela, dit l'auteur, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Nous avons accès donc au texte que Dieu a inspiré par la suite, qui nous révèle encore et toujours qui il est. Dans Jean, chapitre 21, donc la fin de l'évangile de Jean, l'apôtre écrit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses que Jésus a faites et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et dans le chapitre précédent, chapitre 20, versets 30 et 31, il écrit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il nous a donné sa parole, il s'est révélé dans le but de nous conduire à lui. David pouvait dire, qu'est-ce que je suis béni d'avoir accès à la Pentateuque parce que c'est la révélation de Dieu qui veut se faire connaître à moi. C'est Dieu qui me conduit à lui. Nous, on n'est même plus liés uniquement au texte de loi gouvernant le peuple d'Israël, aux généalogies, nous avons aussi tout ce témoignage de la personne de Jésus pour nous conduire à notre Dieu. Car c'était ça l'objectif de sa révélation, de se faire connaître à nous, de nous permettre à vivre en relation avec lui. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour le connaître. Il nous a démontré son immensité à travers sa création. Il nous a donné sa parole pour que même si le péché nous aveuglait les yeux, nous puissions tout de même savoir qui avait créé toutes ces choses. Pourquoi tout est là? Qui désire se révéler à nous à travers cela? Pour qu'on puisse venir à lui. Et puis la Bible nous dit qu'il a également donné de son esprit pour se faire connaître à nous, pour appliquer tout cela dans notre cœur, pour nous permettre de croire et d'entrer en relation avec lui en le connaissant. Dieu s'est révélé parce que Dieu voulait qu'on le connaisse. Du coup, la question qu'on doit se poser face à sa révélation, à ses révélations, c'est: le connaissons-nous? Est-ce que ces choses ont atteint leur objectif? Est-ce que ces révélations que Dieu s'est donné la peine à nous livrer nous a conduit jusqu'à lui? Pour pouvoir dire, Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. David grâce à la révélation qui lui avait été donnée, le connaissait. Il a dit, tu es l'Éternel. Tu es mon rocher, mon rédempteur. Tu m'as invité à te connaître. Ce matin, est-ce que nous désirons le connaître? Lui, de son côté, c'est son désir. Et donc, il a fait tout ce qui est nécessaire pour rendre cela possible. Nous, voulons-nous le connaître, celui qui s'est révélé à nous?